Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Graphite 94.9 pour l'émission La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Picassoft est un membre du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et on est aujourd'hui en présence de trois éminemment membres de l'association, Thomas, Romain et Audrey à distance via Framatalk. Bonjour à vous.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler démocratie numérique populaire et pour ça, on recevra en interview Igor Galigo. Mais pour une fois, l'interview ne sera pas au début, mais à la fin de l'émission. Igor organise donc une journée qui s'appelle démocratie numérique populaire, samedi 7 mars à Paris. Et cette journée va réunir des chercheurs et des gilets jaunes, des membres du mouvement des gilets jaunes, pour discuter et réfléchir notamment de l'articulation entre les outils numériques et donc les questions démocratiques. Pour nous introduire ce sujet, eh bien, je donne la main à Audrey. À toi Audrey.
Et ouais, alors pour essayer de comprendre les usages populaires qui se sont développés pendant le mouvement des Gilets jaunes, on peut commencer par essayer de voir comment ça s'est produit en réalité. Donc les Gilets jaunes, au départ, pour s'organiser, pour se mobiliser, se regrouper, ils se sont surtout appuyés sur la plateforme Facebook. Donc c'est passé par la création d'événements, de groupes, de pages, etc. Et en effet, ça a amplifié leur visibilité. Il y a un groupe compteur officiel de Gilets jaunes, il y a des groupes principaux qui comptent 280 000, 190 000 Gilets jaunes. Donc ça leur a permis au départ de prendre une certaine ampleur. Après, il y a eu une certaine prise de conscience en fait, de plusieurs problèmes liés à l'utilisation de Facebook. Ce sont des problèmes qui ont fragilisé, qui continuent de fragiliser le mouvement au long terme. Alors, on pense par exemple à la clôture de certaines pages, de certains comptes sur Facebook. Il y a aussi la collecte de données personnelles aussi. Il y a une vraie prise de conscience là-dessus sur la surveillance de chaque militant. Hein. Donc c'est Pouillou qui nous l'expliquait bien aussi dans une précédente émission. Il y a une surveillance sur bien sûr le contenu relayé, les interactions, qui participe à quel événement, etc. Donc il y a une prise de conscience sur ce point-là.
Donc Audrey,
après, ce dont on a déjà parlé dans de précédentes émissions, toute la problématique de sélection, de priorisation des contenus avec l'algorithme de Facebook, etc. Et puis la valorisation de contenus polémiques. Donc avec tous ces inconvénients-là, en fait, on voit que la visibilité, la possibilité pour les Gilets jaunes de s'organiser, de se mobiliser, etc., dépend en fait des conditions qui sont imposées par Facebook, des règles qui sont imposées par Facebook, et puis que c'est un problème après pour l'émancipation des Gilets jaunes, pour la poursuite de leur mouvement selon leur propre intérêt, quoi. Donc là, ce que l'on souhaite faire peut-être, c'est de comprendre quel est le cœur du problème, quel est le problème à l'origine de tout ça. Est-ce que Romain, Thomas, vous voulez nous parler un petit peu de ce que... Alors, relayer, c'était Pouillou qui nous avait un petit peu expliqué les soucis liés à Facebook, à l'utilisation de Facebook, lors d'une précédente émission. Est-ce que vous vous sentez de reprendre ça ?
Moi, ça me semblait clair.
En fait, ce que tu nous as dit, Audrey, hein, c'est que donc Facebook, à l'origine, c'est ce qui a permis au mouvement de générer. En tout cas, ça a été présenté comme ça. C'est certainement un peu plus complexe. Et que tu as soulevé un certain nombre de problèmes qui sont apparus plutôt a posteriori ou qui apparaissent un petit peu chemin faisant et qui font qu'aujourd'hui, justement, ça a du sens de s'interroger sur le lien entre les mouvements populaires et l'usage des outils numériques, notamment ceux supportés par les GAFAM. Tu as fait deux, trois fois référence à Pouillou. Alors, tu t'adresses aux auditeurs qui écoutent toutes nos émissions. Pouillou, c'est un membre de Framasoft et il nous avait présenté l'outil Mobilisons. Peut-être tu peux nous en dire deux, trois mots.
Oui, alors l'outil Mobilisons, c'est vrai que c'est un outil qui a été conçu pour proposer une alternative aux événements Facebook en premier. Hein. Donc c'est un outil décentralisé qui, alors on va parler un petit peu plus tard de cet outil-là, mais c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de permettre à toutes les personnes qui souhaitent s'organiser en événement de le faire sur une plateforme alternative à Facebook, avec bien sûr qu'ils soient libres et qui permettent après aux personnes de s'organiser selon les règles qu'elles définissent elles-mêmes et non pas en fonction des impératifs de Facebook. Et voilà. Ouais. Donc ça, c'était ce que Pouy nous avait présenté. Et puis en effet, ça permet d'accentuer sur la dynamique de décentralisation, donc de ne pas donner une vue panoptique la vue panoptique de Facebook sur tout ce qui se passe, sur toutes les mobilisations citoyennes. Le cœur du problème donc que Pouyou avait soulevé, puis ce dont on a parlé, c'était donc l'inégalité de pouvoir en fait, hein, qui émerge de tout cela. On avait donc plusieurs points en fait qui caractérisait cette inégalité-là. Oui. Je ne sais pas si... Alors,
Peut-être, Audrey, je peux préciser. Ce qu'on avait vu, c'est que dans le cadre d'une organisation décentralisée, l'intérêt, justement, c'est que chaque personne qui héberge une partie de la solution peut définir, en quelque sorte, ses propres règles. Hein, c'est un peu ce qu'on fait, nous, chez Picasoft. On héberge deux outils. Il y en a un qui s'appelle Mattermost, qui permet à des gens de discuter entre eux. Bah, en fait, c'est nous qui avons édicté les règles que l'on veut voir observer sur notre instance de Mattermost, et d'autres gens ont tout à fait la possibilité d'avoir une autre instance avec d'autres règles. Et c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est une des grosses difficultés que l'on a avec les outils centralisés des GAFAM, c'est que les règles, elles sont édictées par d'autres, une fois pour toutes, pour tout le monde.
Voilà, ouais, tout à fait, voilà, c'est bien ça le problème, c'est qu'on a une poignée de personnes qui édictent des règles pour des millions d'autres, et donc on s'est dit que pour essayer de rétablir un petit peu plus la balance des pouvoirs, on a besoin de davantage de liberté par rapport aux conditions générales d'utilisation. Par rapport aux conditions générales d'utilisation, donc les premières choses, ça peut être d'être libre d'accepter ou de refuser des conditions, et puis ensuite, donc tu l'as dit, de poser nos propres conditions d'utilisation. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? Quelle architecture, quelle infrastructure, quelle techno peut nous permettre de faire ça?
Tu peux peut-être rappeler ce que sont les conditions générales d'utilisation très, très rapidement?
Romain, je vous entends mal. Romain, tu veux te tenter? Thomas, où j'y vais?
Les conditions générales d'utilisation, ce sont des outils qui ne sont des outils numériques qui ne sont pas neutres politiquement, puisque en les acceptant, en fait, on va devoir faire une utilisation des outils qui sont conformes justement à ces conditions générales d'utilisation. Et on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. En fait, on a le choix entre accepter les conditions générales d'utilisation pour utiliser le service et ne pas les accepter. Et du coup, on ne peut pas utiliser les services et on n'a pas vraiment d'alternative. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose?
C'est un peu les règles, en fait, les conditions d'utilisation. Hein. C'est les règles qui vont avec le service qu'on utilise.
C'est ça.
Donc, alors, c'est vrai que on les lit pas toujours, hein. on a tort d'ailleurs, mais c'est un petit peu la loi qui prévaut sur l'outil que l'on est en train d'utiliser à un certain moment.
Mais alors Stéphane, ça veut dire que pour chaque outil que moi j'utilise sur Internet, pour toutes les plateformes sur lesquelles je communique avec mes amis, à chaque fois j'ai dû voir ces CGU dont vous parlez et j'ai dû les accepter?
C'est exactement ça. Alors, je vais te rassurer d'un autre côté. Si on lit les CGU de quasiment tous les outils des GAFAM, tu prends Snapchat, tu prends Instagram, tu prends Facebook, tu prends Google, etc. C'est quasiment toutes les mêmes. Hein. Donc, toutes quasiment, elles te disent la même chose. C'est-à-dire que pour tout ce que tu produis, eh bien, tu délègues à la plateforme le droit d'utiliser ce que tu produis. Et elles ont toutes à peu près également les mêmes règles de fonctionnement, c'est-à-dire qu'elles laissent exercer la liberté d'expression jusqu'à temps qu'il y ait un recours légal ou à un moment, et on en reparlera peut-être justement samedi lors de cette journée, eh bien, il peut y avoir aussi des décisions un peu arbitraires de leur part, consiste à dire, de toute façon, on se réserve le droit à un moment de faire telle ou telle action si on sent que ça peut, entre guillemets, déraper par rapport à leur propre vision. Donc c'est... voilà, c'est donc tu as raison, des conditions générales d'utilisation, eh bien, c'est en fonction de chaque outil. Et d'où, si on diversifie les outils, eh bien, l'idée, c'est aussi de diversifier les conditions générales d'utilisation, qu'à certains endroits, peut-être la liberté d'expression soit la plus grande possible, qu'à d'autres, au contraire, elle soit peut-être un peu plus restreinte pour limiter des propos qui ne seraient pas illégaux, mais qui pourraient être dérangeants, etc., etc. Et ensuite, que chacun puisse se trouver un peu là où il a envie.
Ouais, l'idée après, c'est de savoir comment on peut permettre cette diversité-là, comment on peut permettre cette liberté-là, donc d'accepter de refuser ou non, et puis de cette autonomie, donc le fait de pouvoir se donner sa propre loi, ou de le faire au sein d'une communauté, d'un petit groupe, et comment on peut connecter tout ce monde-là. Donc,
À
notre rescousse, on a un concept, ouais, Stéphane ?
Non, mais j'allais te lancer sur pour savoir si par hasard tu n'avais pas un concept à notre rescousse.
Mais alors oui, figure-toi qu'il existe quelque chose que. Alors, je n'ai pas inventé, bien sûr. Hein. J'ai le concept, mais je l'ai piqué à Édouard Glissant. Édouard Glissant, donc, c'est un écrivain, un poète, un philosophe martiniquais. Qui lui a énormément contribué à penser ce concept d'archipélisation. Alors c'est un article de Framasoft, hein, qui est un article qui date du 10 décembre, qui nous a bien aidé pour préparer l'émission, pour comprendre ce concept-là. Alors l'archipélisation, c'est donc une métaphore insulaire qui permet de décrire le fait qu'on a plusieurs structures autonomes qui vont définir leurs règles, mais qui ont la capacité de coopérer entre elles, voilà, de se connecter, de dialoguer plutôt entre elles. Et donc l'archipélisation, ça permet de pouvoir définir des règles, mais à différentes échelles. Voilà. Comment est-ce qu'on pourrait décrire plus précisément l'archipélisation ? Comment est la topologie d'un archipel ? Comment on peut faire le lien avec les médias décentralisés.
C'est une question que tu nous poses, on dirait, non ? En fait, aujourd'hui, nous on s'attendait à ce que tu répondes aux questions.
Donc ça fait des îles, c'est vrai que...
Alors aujourd'hui, on s'attendait à ce que tu répondes aux questions, mais finalement, tu as décidé de nous les poser. Alors on va faire de notre mieux, mais... On va peut-être d'ailleurs pas s'étendre trop. Peut-être qu'on pourrait faire une émission entière consacrée à ce concept ultérieurement. Et puis je crois que Igor nous en dira quelques mots tout à l'heure. Mais comme tu l'as dit, hein, on sent une proximité entre cette idée d'île, c'est-à-dire des communautés en quelque sorte qui ont une forte autonomie, un petit peu comme ce que nous là on revendique au niveau des instances, hein, des différents outils qui sont installés. Les gens peuvent se réunir en communauté avec des lois qui leur sont propres, mais l'idée qui va derrière, l'idée d'archipel, c'est aussi, il faut quand même qu'ils s'interconnectent les uns aux autres, qu'ils collaborent les uns avec les autres, parce qu'évidemment sinon on vivrait isolé sur son île, et le but n'est pas celui-là non plus. Il faut aussi pouvoir se fédérer, s'organiser avec d'autres personnes qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent un petit peu moins.
Ouais, c'est ça.
Alors, se fédérer, on en avait déjà parlé, hein, le fait divers, on a déjà utilisé ce mot-là ici, mais c'est cette idée que, eh bien, on peut construire des outils numériques qui, à la fois, sont décentralisés, c'est-à-dire donc chacun a une copie sur ses propres serveurs avec, comme on l'a dit, ses propres règles, et puis par ailleurs, des langages, des protocoles de communication qui permettent à ces différentes instances d'échanger des informations les unes avec les autres. Alors, comme tu aimes bien poser des questions, moi aussi, je vais en poser une. Est-ce qu'on a une analogie qu'on prend souvent pour parler de décentralisation, fédération, un outil de communication qu'on connaît tous et qui fonctionne comme ça? Alors aujourd'hui, c'est un quiz interne. On va voir si vous voyez à quoi je pense. 1, 2, 3. Eh bien, c'est le mail. C'est-à-dire que...
C'est le mail.
Ça compte pas, Audrey. Désolé, tu n'auras pas les points.
Ah là là là, j'arrive avec le compteur pas.
Comme on l'avait effectivement dit, hein, comme on est tous habitués à l'utiliser, bien, quand vous utilisez un mail, vous utilisez un serveur qui n'est pas le même pour tout le monde. Surtout si vous n'avez pas un Gmail, eh bien, vous utilisez par exemple les serveurs de l'UTC, vous pouvez utiliser les serveurs de ProtonMail, vous pouvez utiliser les serveurs de votre entreprise, de votre opérateur, de l'opérateur de votre box, etc. etc. Et allez, deuxième question, on est en impro, ça se voit.
J'enchaîne.
Comment est-ce qu'on le voit que c'est décentralisé dans l'adresse mail, je vous aide.
C'est derrière le arrobase, ça indique le serveur d'où vient le message finalement.
Exactement, c'est-à-dire que quand vous avez un compte sur Facebook, eh bien vous avez, ou sur Twitter, vous avez un pseudo unique au monde, parce qu'il n'y a qu'une instance, donc voilà, c'est votre pseudo sur Twitter. Mais quand vous avez un compte à l'UTC, eh bien vous avez votre login à l'UTC, et ensuite il y a un arrobase, utc.fr par exemple, ou etu.utc.fr, qui détermine effectivement le serveur qui gère votre compte mail. Eh bien, c'est la même chose sur les réseaux sociaux décentralisés et fédérés. Par exemple, si vous voulez un compte sur Mastodon, qui est un petit peu une sorte d'alternative à Twitter, eh bien, vous pouvez l'ouvrir, par exemple, sur le serveur de Framasoft, qui s'appelle Framapiaf, et dans ce cas-là, vous aurez votre pseudo, @framapiaf.org, qui donnera donc votre adresse complète.
Et du coup, utiliser des outils fédérés, ce serait aussi simple qu'envoyer un mail.
Et exactement, c'est aussi simple que d'envoyer des mails, même sous certains aspects, c'est encore plus simple. On a dit pas mal de trucs, vas-y,
Audrey. Ouais, non, j'allais partir sur justement les avantages de la décentralisation. Tu en as parlé un petit peu, mais c'est vrai, c'est y a deux choses, quoi. L'autonomie, le fait que donc chacun puisse définir ses propres règles, ses règles d'administration, le fait que comme on a une diversité d'instances, et bien à ce moment-là, on peut donc choisir l'instance qui nous convient le plus en fonction de ses règles de vie. Et puis si ça nous plaît pas, on peut partir sur une autre instance. Et donc ça, voilà, c'est ce qui nous permet une grande liberté de mouvement. Et puis la décentralisation, ça permet aussi d'éviter les cas de censure et de contrôle de masse, parce qu'il est plus difficile de contrôler une myriade d'instances autonomes. Après, donc tu as parlé de la fédération, du concept de fédération, Stéphane. Donc et on a un gros concept qui se cache derrière ça. Est-ce que vous l'avez en tête, ce qui permet de fédérer tous les services et toutes les instances du Fediverse?
Tu veux nous emmener sur l'interopérabilité, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Alors, tu ne nous vois pas hein, dans le studio, donc on va être obligé de faire un petit peu de communication à l'antenne. On en était plutôt à se dire qu'on était pas mal en timing, mais bon, puisque tu nous as lancé, on peut peut-être dire un petit mot sur l'interopérabilité. Et puis ensuite, peut-être.
On pourrait faire une émission là-dessus. Hein.
T'inviter à. Ça nous fait déjà. On dirait Quentin. Peut-être donc on peut se faire un petit mot sur l'interopérabilité. Et puis ensuite te laisser conclure sur la liberté avant de rejoindre Igor. L'interopérabilité, les informaticiens.
Eh bien, ça repose sur un langage qui est unique pour pouvoir communiquer, pour que les différentes instances puissent communiquer ensemble et qu'elles puissent se comprendre. Donc, ce protocole de communication, c'est le protocole ActivityPub. Et il permet entre instances d'un même service de pouvoir partager des informations, mais aussi de pouvoir intégrer des services d'autres logiciels à un autre logiciel qui utilise lui aussi ActivityPub. Donc par exemple, on peut penser à un cas qui est pas mal, les vidéos sur PeerTube. Donc déjà, entre les instances PeerTube, on peut retrouver des vidéos qui ne se trouvent pas sur notre instance à nous, mais sur l'instance de quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi penser à l'intégration des commentaires, par exemple via Mastodon. Quelqu'un pourra commenter une vidéo PeerTube grâce à son logiciel Mastodon. Voilà.
Alors là, tu nous as donné effectivement un exemple d'interopérabilité dans le cadre du Fediverse à travers le protocole ActivityPub. D'une façon générale, l'interopérabilité, c'est la possibilité pour des logiciels justement de communiquer. Et donc effectivement, comme tu l'as dit, pour ça, il faut qu'ils parlent des langages communs. Et un exemple de ces langages, c'est ActivityPub. Et donc tout ça, on l'a vu, permet donc à eh bien, à chaque île d'avoir ses propres technologies, ses propres règles, et néanmoins de communiquer avec les autres, d'échanger des informations avec les autres. Et donc, il y aurait un enjeu de liberté autour de ça, Audrey ?
Ouais, bah ouais, on va terminer là-dessus, hein. L'enjeu de la liberté, puisqu'on est parti donc des usages populaires du numérique, de l'émancipation, des mouvements militants, par exemple, et puis de la liberté en général. Ouais, en fait, tout l'intérêt des médias décentralisés et fédérés, comme le fait Divers, c'est de nous permettre de communiquer, de nous organiser entre nous, donc, ben, avec une gouvernance décentralisée, et puis avec la possibilité de décider de nos règles de vie communes, hein, et puis et concrètement, donc via cette appropriation de la définition des CGU, le fait de pouvoir se créer des communautés où on se sent bien, et puis de pouvoir quand même se connecter au reste du monde, ça nous permet d'être libres sur plusieurs étages, en fait, hein, la liberté que l'on a dans une situation d'intimité et puis de familiarité, et puis en même temps la liberté de l'exploration et puis de la découverte d'autres cultures, d'autres façons de faire, etc. Voilà, c'est ce que permet le fait divers et qui peut être très très intéressant justement pour penser les usages populaires du numérique. Ouais.
Merci Audrey, et bonjour à Igor qui nous a rejoint pendant ce temps-là. Peut-être tu peux redire bonjour parce que je crois que tu n'étais pas enregistré. Bonjour Igor. Bonjour à toi. Eh bien écoute, on te propose d'envoyer un petit morceau de musique et on te interroge juste après si cela te convient.
Peut-être on met le quiz avant la musique, peut-être.
Eh bien vas-y, lance le quiz Romain, on est un peu désorganisé aujourd'hui, c'est une reprise. À toi l'honneur.
Donc du coup, le quiz d'aujourd'hui, la question ce sera qu'est-ce que le fait divers ? Et je vous propose 4 réponses. Un service proposé par une seule entité avec plein de fonctionnalités permettant de regrouper plein de monde. Une rubrique dans un journal. Différents logiciels libres offrant différents services capables de communiquer ensemble et d'interconnecter les utilisateurs selon leurs besoins, leurs envies, leur liberté. Ou alors une fonctionnalité Twitter.
Eh bien, allons-y. Donc, musique, puis interview, c'est parti.
Fuyant les genres humains, pensant que le déluge épargnerait pas de Viagre, du soleil et du sel. On n'a que ce que l'on mérite, le monde est si cruel. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Venez dans mon île, y a pas de route, pas de ville, même pas de téléphone, pas de portable qui sonne. Y a pas de président, pas droit, pas de chef militaire. Y a pas de pétrole non plus, donc pas de quoi faire la guerre. Venez dans mon île, y a pas d'école, pas d'église, ni flic, ni soutane, ni Coltorac, ni Conan. Y a pas de télévision, pas de radio, y a que la mer. Y a pas d'argent non plus, donc pas de quoi faire la guerre. Venez dans mon île, aride et déserte. Y a pas d'arbres et pas de vie, y a que du soleil et du sel. On n'a que ce que l'on mérite, le monde est si cruel. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre. Le paradis n'est que dans la Bible, l'enfer est sur la terre.
Eh bien, on est de retour après donc cette musique. Qu'est-ce que c'était comme musique ? J'ai oublié de la présenter.
Eh bien, nous avons eu le plaisir d'entendre Dans mon île, un rock de nouvelle donne que nous avons pu récupérer sur Dogmazic. C'est une licence sous licence, c'est une musique, pardon, sous licence Creative Commons, licence by ND. C'était un plaisir.
Romain, la solution au quiz ?
Donc oui, c'est l'heure de la solution. La question, je le rappelle, c'était qu'est-ce que le fait divers ? Et donc la bonne réponse était différents logiciels libres offrant de différents services. Et qui sont capables de communiquer ensemble afin d'interconnecter les utilisateurs selon leurs besoins et selon leurs envies.
Et tu as prononcé plusieurs fois le mot différent, cette notion de différence voilà. Également dont on a parlé.
Exactement.
On arrive au moment de l'interview, donc normalement si tout va bien, on a Igor Galigo en ligne. Bonjour Igor, rebonjour.
Bonjour Stéphane.
Eh bien écoute, on t'entend. Igor, tu es chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, également chercheur associé en design, et tu as fondé une association qui s'appelle No Design. Je pense que tu vas nous en dire un peu plus un peu plus tard, mais d'abord, puisque j'ai commencé en disant que samedi tu organisais un événement qui s'appelle Démocratie numérique populaire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cela ?
Oui, juste avant, juste une petite rectification, puisque je viens de passer à Paris 8 au sein de Artec, donc j'ai quitté le HESS très récemment. Alors, pour venir à cette journée de rencontre, je ne veux pas en parler comme un colloque, parce que c'est une journée de rencontre entre des corporations, des catégories de personnes qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, puisqu'il s'agira de faire rencontrer des chercheurs en sciences sociales et en sciences des techniques et en infocom, des techniciens et ingénieurs numériques et des gilets jaunes. Et l'enjeu de cette rencontre, c'est de repenser des formes populaires de la démocratie numérique à partir des initiatives, des inventions et des conceptions des gilets jaunes. Parce qu'en fait, on ne sait pas, mais les gilets jaunes n'ont pas été seulement des personnes qui ont manifesté sur les ronds-points, sur les Champs-Élysées. Ce sont aussi des personnes qui ont conçu des objets technologiques, des plateformes, qui ont essayé de réinventer les médias. Et donc, il y a eu toute une série d'automédias citoyens qui se sont révélés à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu toute une série aussi de concepteurs qui sont nés pour pouvoir réinventer une démocratie numérique en réinventant les plateformes numériques pour arriver à s'organiser, à se coordonner, à délibérer. Et c'est donc toute cette émulation assez extraordinaire des Gilets jaunes qu'il s'agira de rendre visible, de faire connaître et de faire discuter avec des chercheurs spécialisés sur ces questions-là. Donc voilà, c'est une journée qui sera organisée selon trois sessions. Une première session le matin qui s'intitule « Médiation et médiatisation » et qui donnera la parole aux automédias Gilets jaunes. Une deuxième session qui s'intitule « Expression et expressivité » et une troisième session qui s'intitule « Organisation et délibération ». Et l'après-midi, nous aurons des échanges avec l'Assemblée des Assemblées numéro 5 qui se tiendra le même jour à Toulouse et qui réunit toutes les assemblées Gilets jaunes de France. Et donc, nous aurons des échanges sur justement la question technologique au sein du mouvement des Gilets jaunes. Nous aurons aussi en parallèle des ateliers en groupe plus restreint avec les Gilets jaunes qui seront dans le public à ce moment-là. Et puis, en fin de journée, il y aura une restitution des ateliers.
Eh bien, merci pour cette description du programme. Alors, en introduction, on a pas mal parlé du rôle qu'ont joué les gros réseaux sociaux et Facebook dans le, on va dire dans la génétique du la genèse du mouvement. Tu viens de prononcer plusieurs fois le mot automédia. Est-ce que peut-être juste tu peux nous dire un petit mot complémentaire là-dessus?
Bah, automédia, ce sont, je dirais tout simplement, des citoyens qui ont décidé d'être eux-mêmes des médias et qui ont décidé de faire l'information par eux-mêmes, considérant que les médias classiques ne faisaient plus leur rôle à certains endroits. Donc, je dirais que la vague automédia vient d'un certain engagement politique personnel et qui consiste à dire ben, on va essayer de relayer l'information là où elle n'est pas relayée et là où elle devrait être relayée. Donc, l'automédia, c'est à la fois une prise de conscience de la puissance politique des médias et de sa puissance aussi à faire médias, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi une prise de conscience de faire l'information dans des micro-localités, c'est-à-dire dans des endroits où plus personne ne parle et où pourtant il se passe des choses importantes. Et donc les automédias, ce sont ça, ce sont ces mouvements citoyens qui se sont organisés pour relayer l'information des micro-localités au nom d'un engagement politique.
Merci beaucoup de cette précision. On prolongera tout ça samedi et pourquoi pas une émission complémentaire également après pour débriefer. Est-ce que tu nous dirais quelques mots de plus sur ton parcours et ou sur l'association que tu as fondée?
Alors, New Design, c'est une association, loi 1901, qui essaye de faire rencontrer des chercheurs en sciences sociales et en sciences du design, sciences de l'infocom aussi, des responsables ou acteurs politiques et, je dirais, des concepteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de la recherche, il y a le domaine de l'action politique, et il y a le domaine de la conception matérielle technologique. Et l'enjeu, en fait, de New Design est d'arriver à repenser l'action politique à partir de la conception technologique. C'est une association qui organise des rencontres, conférences, colloques, ateliers, débats, qui coordonne des projets entre des acteurs politiques, des scientifiques et des designers, et qui invite à réfléchir à de nouvelles conceptions politiques. Alors, en fait, New Design, nous, ça veut dire esprit en grec ancien. Et donc, la noopolitique, qui était un concept qui a été théorisé notamment par Maurizio Lazzarato, désigne la politique des esprits. Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec le numérique, la technologie a un impact sur la manière dont notre esprit, en tout cas notre cognition, est agencée. Et donc, il y a aussi l'idée que les designers doivent prendre conscience du pouvoir qu'ils ont sur le fonctionnement de notre esprit. Donc, il y a cette idée de dire que le new design, c'est le design, en fait, de l'esprit d'une certaine manière. Et l'enjeu de new design, c'est à la fois d'arriver à faire prendre conscience de cette puissance-là, et deuxièmement, d'initier des dynamiques, on va dire, politiques autour de la conception en design sur ces questions-là. Dans cet événement-là qui aura lieu le 7 mars, il s'agit de parler d'organisation, de délibération, puisque ce sont des thématiques qui sont très importantes pour les Gilets jaunes, et ce sont à la fois des thématiques qui font appel à des capacités cognitives et noétiques, dirait Husserl, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à la pensée, et qui sont à la fois des catégories politiques. Donc on est à la fois dans le cognitif, dans le noétique et dans le politique, donc on est dans nos designs.
Ok, des modes de raisonnement qu'on connaît un petit peu à l'UTC, effectivement, dans ces croisements entre technique, politique et cognitif. Au début de l'émission, Audrey nous a introduit le concept d'archipelisation et il se trouve que tu travailles un petit peu sur ce sujet. Est-ce que tu veux essayer de nous faire ton introduction à toi?
Alors, je pense que toujours par rapport à la question des gilets jaunes, je pense que le concept d'archipélisation est un concept qui peut être très intéressant pour eux. Encore une fois, l'enjeu de cette rencontre, c'est de voir comment des initiatives au sein des gilets jaunes peuvent être nourries par des réflexions qui ont été menées par des chercheurs. Donc il y a aujourd'hui un grand renouveau du concept d'archipel et d'archipélisation dans le monde à la fois poétique, dans le monde politique, mais aussi dans le monde de la conception numérique. On le voit chez Framasoft, par exemple. Et il se trouve qu'au même moment, il y a une vague très forte de dynamique pour l'horizontalité au sein du mouvement des Gilets jaunes qui vient de l'anarchisme, qui vient du communalisme. Et donc l'enjeu de cette rencontre-là le 7 mars sera de dire comment est-ce que aujourd'hui ces dynamiques au sein de la conception numérique, au sein, je dirais, du logiciel libre, de l'archipélisation, peuvent rencontrer des dynamiques politiques au sein des milieux populaires qui refusent toute forme d'organisation politique verticale, pyramidale. Et donc là, il y a une rencontre à produire. Et le 7 mars, j'espère que ce sera cette rencontre-là qui aura lieu. Pourquoi est-ce que je parle de ça plus particulièrement? Parce que les Gilets jaunes fonctionnent comme des archipels au sein du territoire français. Ça veut dire qu'ils sont relayés sous des formes un peu particulières. Entre eux, il y a la commune de Commercy, il y a la commune de Toulouse, il y a la commune d'Isère. Et donc, ils sont dans des modes, en fait, de liaison qui sont un petit peu particulières. Et je pense que le concept d'archipélisation permet à la fois de penser cette liaison et cette autonomie, en fait, de chaque archipel, je dirais, de chaque commune de Gilets jaunes. Et aujourd'hui, ils sont en demande de penser, en fait, ces relations-là sous un mode politique qui leur permettrait à la fois de se coordonner, mais sans que les uns et les autres puissent avoir, je dirais, un pouvoir sur un archipel ou sur un autre. Donc il y a quelque chose au niveau de l'organisation des Gilets jaunes à penser en ce moment sur le territoire français. Et je pense que le concept d'archipel peut être un concept qui va venir nourrir leur réflexion dessus.
Eh bien écoute, merci beaucoup de ces présentations super claires. Et effectivement, je crois que ça nous donne envie d'aller croiser ces questions politiques actuelles, les questions technologiques que nous, on a l'habitude de présenter ici autour de la décentralisation et de la fédération. Je pense que la rencontre sera très féconde. Peut-être juste nous rappeler le lieu du rendez-vous et le moyen de s'y rendre. On relaiera le lien sur le site de Picassoft, picassoft.net, mais peut-être que tu peux le rappeler rapidement à l'antenne.
Bien sûr, donc le lieu, c'est la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, c'est Métron Front Populaire, justement. Ligne 12, c'est le terminus de la ligne 12, c'est à la jonction entre Saint-Denis et Aubervilliers, de 9h30 à 19h30 le samedi 7 mars. Donc on vous attend nombreux. Sachez aussi que l'événement sera retransmis par la chaîne Quartier Général, par Aude Lancelin. Donc il y aura l'équipe du studio de Quartier Général qui sera là pour filmer tout ce qu'on dira, tout ce qui se passera.
Merci beaucoup à toi Igor.
Merci à Picassoft.
Merci à Thomas, Romain et Audrey. Et on se dit à la prochaine fois. On essaie la semaine prochaine.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Salut.
Merci à vous. Au revoir. Au revoir.